Bonjour, nous sommes la classe de CP de l'école des Buzardières à Saint-Herblain. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre dernière émission radio. Les bus prennent le large sur Alternante FM. Nous avons le grand plaisir d'accueillir Nathalie Régis de l'association Voix sans frontières. Nous pourrons également entendre une interview d'Armel Tripon, skipper du Vendée Globe, de cette dernière édition.
Bonjour à tous, merci Robin pour cette présentation, ravi de vous retrouver tous pour cette dernière émission, en souhaitant par la même occasion la bienvenue à votre dernière invitée, Nathalie Régis. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Comme vous l'a annoncé Robin, nous allons maintenant écouter Armel Tripon, le skipper. Mais avant, je laisse Yahya et Valentin nous le présenter. Yahya.
Armel Tripon devait venir nous voir pour un enregistrement radio. Il a malheureusement dû annuler car il avait un rendez-vous important. Il a quand même bien voulu répondre à nos questions. Vous pourrez entendre l'enregistrement, mais avant cela, Valentin va nous présenter Armel.
Armel Tripon est un navigateur qui habite à Nantes en Loire-Atlantique. Il est marié et père de 3 enfants. Son port d'attache est la Trinité-sur-Mer. Il a fait de nombreuses courses. Il a pris le départ du Vendée Globe pour la première fois en 2020 sur son bateau L'Occitane en Provence. Il a terminé 11e.
Merci les garçons. On écoute Armel Tripon.
Bonjour à tous, bonjour les enfants. En tout cas, bravo pour votre travail. Et voilà, je vais tenter de répondre le mieux possible à toutes vos questions. Alors, il y a Blanche qui me demande pourquoi j'ai choisi de faire le Vendée Globe. Eh bien, parce que c'est une course qui m'attire depuis très longtemps. Depuis presque 2003, j'ai envie de dire. Donc, ça fait quelques années déjà que je rêve de cette course. Et aujourd'hui, j'ai pu réaliser mon rêve. Donc, voilà, c'est toujours assez magnifique de pouvoir réaliser ses rêves. Ça n'arrive pas tout le temps. Donc, voilà. Ibrahim me demande pourquoi aviez-vous choisi ce bateau? J'ai choisi ce bateau conjointement avec l'architecte naval, donc qui s'appelle Sam Manuart. Et Sam l'a dessiné et il a fait un bateau qui me correspondait bien et puis qui était extrêmement marin et extrêmement rapide. Voilà, donc c'était un très très bon bateau. Alors, Camille me demande si j'ai le trac de faire le Vendée Globe. Eh bien, pas du tout. J'ai pas eu le trac, je me suis préparé. Et j'avais une énorme motivation, une envie, et finalement j'étais assez serein, voilà, même très serein de partir faire cette course. Est-ce que vous avez été triste quand vous avez quitté votre famille, me demande Juliana. Alors, j'ai été triste peut-être un peu avant, mais le jour du départ finalement, j'étais dans ma bulle, j'étais très motivé, très concentré, et finalement, eux étaient plus triste que moi, parce que moi je partais réaliser mon rêve, donc voilà, c'était quelque chose de très beau, mais plus dur pour eux qui restaient à terre, voilà, alors que moi je suis dans l'action et je fais quelque chose et ça m'aide à tenir. Alors, Casey me demande si je voulais gagner le Vendée Globe. Est-ce que je voulais gagner? Je voulais surtout terminer cette course du mieux possible. Bien sûr, ça aurait été magnifique de pouvoir le gagner, mais malheureusement, je manquais de préparation, de temps. Et voilà. Et une course comme celle-ci se prépare bien en amont. Nous, on a été très très court dans notre préparation, notre timing de préparation, ce qui fait que je pouvais pas prétendre à gagner dans ces conditions. Blanche me demande si j'ai croisé d'autres skippers pendant la course. Eh bien, j'en ai croisé 3 ou 4, mais pas plus. Par contre, j'ai pu échanger avec eux. On peut discuter à VHF ou voir, on échangeait aussi par WhatsApp. Ce qui fait que ça crée une petite relation assez sympa et de pouvoir discuter, de partager un peu nos galères et nos moments qui peuvent être difficiles. Est-ce que votre bateau a été cassé, me demande Ibrahim. Alors, il a été cassé dès le début, au bout de 2 jours. C'était une petite pièce, mais qui avait son importance, qui s'appelle un hook. Et j'en ai recassé un deuxième ensuite dans le Pacifique, et puis j'ai eu des petites cases que j'ai dû réparer au fur et à mesure, mais qui m'ont jamais empêché de naviguer. Donc Camille me demande ce que j'avais des outils. Alors oui, on part toujours avec une caisse à outils et plein de matériel pour pouvoir réparer ce bateau et être autonome. Donc c'est toujours un équilibre à avoir, à emmener du matériel suffisamment pour réparer, mais pas trop non plus pour pas que ce soit trop lourd, puisque plus un bateau va être lourd, moins il sera rapide. Donc voilà, il y a une gestion à avoir qui est pas si évidente que ça. Est-ce que vous avez su que le bateau de Kevin était en train de couler menant Juliana? Eh bien oui, on l'a appris comme vous à terre. Finalement, on était informé par la direction de course, donc une autorité qui s'occupe de notre sécurité depuis la terre, qui nous a tenus informés quasiment en temps réel en fait du sauvetage. Est-ce que vous avez été inquiet pour lui? Alors oui, j'étais inquiet forcément parce que quand on a un camarade de jeu qui est dans une situation compliquée, parce que voilà, la nuit arrivait, ça pouvait être assez périlleux. Alors maintenant, j'étais assez loin de de ce groupe, et puis ça s'est fait assez vite finalement. Donc, on n'a pas eu le temps d'être trop inquiet. Voilà. Est-ce que vous êtes baigné? Alors non, je ne me suis pas baigné parce que quand on est seul sur son bateau, c'est pas facile. Voilà. Par contre, je prends des douches d'eau de mer et ça, c'est pas mal. Je n'ai pas pêché de poisson non plus, me demande Ibrahim. Donc voilà. Comment avez-vous cuisiné? Comment faites-vous votre cuire vos aliments? Eh bien, je les fais cuire dans de l'eau, souvent quand c'est des pâtes ou du riz. Puis autrement, je mange du lyophilisé. Voilà, c'est ces plats déjà tout préparés, sous vide. Et en fait, on les réhydrate en ajoutant de l'eau chaude. On mélange et voilà, c'est prêt. Et pour faire mes besoins, bah c'est très simple, il y a un seau. Voilà, c'est comme au camping. J'ai vu des plantes aquatiques pousser sur l'arrière de mon bateau. Voilà, avec le soleil, la photosynthèse, où il y a des choses qui se développent très très rapidement. Et donc des petites algues en fait, qui viennent s'accrocher à l'arrière du bateau. Même si on avance, il y a quand même un développement de vie qui se fait très très vite. Et j'ai vu beaucoup d'animaux, pas tant que ça, beaucoup d'oiseaux, quelques dauphins. Mais pas tant que ça voilà, d'animaux marins, des poissons volants évidemment, on en voit aussi souvent. Et j'ai dû cogner une ou deux baleines, mais à faible vitesse. Voilà, ce qui fait que ça, je pense pas les avoir abîmées. Et voilà, réciproquement non plus.
C'était Armel Tripon, donc, qui a répondu aux questions des élèves. Armel, que nous allons retrouver tout à l'heure pour une deuxième partie. Place maintenant à Camille H, Blanche, Thiago, Kali, Zineb et Léa pour la première partie de l'interview de Nathalie Régis de l'association Voile sans frontières. Les enfants, c'est à vous. Camille H, on t'écoute.
Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, bonjour. Bah, écoutez, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à l'école des Buzardières, que je retrouve avec plaisir, puisque j'étais déjà venue l'an dernier avec Élise pour un partenariat scolaire. Donc, je m'appelle Nathalie, j'ai 55 ans, je suis maman de 3 grands-enfants et j'habite à côté de Nantes, à La Boissière-du-Doré.
Blanche, ta question?
Qu'est-ce que Voile sans frontières?
Voile sans frontières, c'est une association de solidarité internationale qui intervient dans le delta du Siné-Saloum au Sénégal. Alors donc, pourquoi Voile sans frontières? Tout simplement parce que c'est un navigateur, Michel Huchet, qui est parti pour un grand voyage autour du monde et qui s'est arrêté dans le delta du Siné-Saloum, qui a vu tous les besoins dont la population voulait sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, dans plein de domaines différents, Et il a décidé en 1992 de créer cette association. Alors évidemment, depuis ce temps-là, l'association a bien évolué. Mais ce qui n'a pas évolué, c'est que chaque année, on a environ une dizaine de bateaux qui partent en tour de l'Atlantique, en famille, en solitaire ou en couple, et qui font une mission pour Voiles sans frontières dans le delta du Siné-Saloum.
Et cette association, elle est basée où ?
Cette association est basée à Lorient.
Ok. Thiago, ta question ?
Quelle est votre mission dans cette association ?
Alors moi, au niveau de cette association, je suis la coprésidente de l'association. Je suis aussi responsable de l'antenne Ouest, parce qu'en fait, c'est une association qui est très entendue sur le territoire en France. Et on a plusieurs antennes qui permettent en fait de se retrouver plus facilement.
Cali, à ton tour.
Pourquoi avez-vous choisi de faire partie de cette association ?
Alors, moi j'ai connu l'association parce que je suis partie en voyage en famille en 2012-2013 et nous voulions avoir dans ce voyage une dimension de solidarité, surtout par rapport à nos enfants hein, qui sont venus avec nous. Donc voilà comment j'ai connu cette association. Après, quand nous avons fait cette mission au Sénégal, personnellement, je suis tombée complètement amoureuse de cette région sénégalaise et de la teranga sénégalaise, hein, parce que là-bas, quand vous allez dans ce territoire, ben, vous êtes vraiment très très bien accueillis. Et puis j'ai pu aussi voir tous les besoins que la population avait. Et voilà, j'ai voulu m'investir davantage. Et depuis mon retour en 2013, je suis rentrée dans cette association.
Zineb ?
Est-ce que c'est votre vrai travail ?
Et non, c'est pas mon vrai travail. Moi, je suis dentiste de formation. Voilà. Mais je travaille maintenant quasiment pas du tout en tant que dentiste, puisque j'ai eu des petits problèmes de santé. Et donc, c'est pour ça que ça m'a permis de m'investir davantage dans cette association.
On va maintenant parler de la traversée en voilier. Et Léa, ta question.
Est-ce que vous utilisez toujours le même bateau pour aller au Sénégal ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, chaque année, nous avons des contacts avec des navigateurs qui veulent faire une mission pendant leur voyage de tour du monde ou de tour de l'Atlantique. Donc, on n'a jamais les mêmes voiliers. Hein. On a des équipages différents qui partent soit des côtes atlantiques, soit des côtes méditerranéennes, et qui vont aller au Sénégal pour l'association. On va leur donner une mission, qu'on travaille avec eux pendant plusieurs mois. Et de ce fait, voilà, on a plusieurs voiliers qui descendent pour nous dans le Siné-Saloum. Alors moi, personnellement, je suis partie en voilier. C'était un catamaran, un Nautitech. Et nous sommes partis d'Istanbul. Et nous avons traversé toute la mer de Marmara, la mer Méditerranée. Nous avons passé le détroit de Gibraltar, longé les côtes de la Mauritanie et nous sommes arrivés au Sénégal, à Dakar.
Camille H, ta seconde question pour Nathalie Régis.
Comment s'appelle votre bateau ?
Mon bateau s'appelle Humanes. Alors pourquoi Humanes ? Parce que j'ai trois enfants qui s'appellent Hugo, Inès, Emma. Et donc on a mis Humanes comme nom du bateau. Mais alors auparavant, c'est vrai qu'il y a quelques années, nous avons eu pour l'association un bateau dédié qui s'appelait Yobalema, qui avait été généreusement prêté par un membre de l'association. Et ce bateau partait pour chaque saison de mission et il permettait en fait de recevoir des missionnés qui arrivaient au Sénégal en avion. Parce que au niveau de l'association, on a deux voies différentes pour aller au Sénégal. Soit on y va par la mer, donc ça ce sont les navigateurs qui le font, soit il y a des bénévoles qui partent en avion, en mission chaque année.
Personne navigue sur le voilier.
Alors sur les voiliers, il y a deux types de personnes qui naviguent en fait. Il y a les familles, hein, ceux qui partent au voyage, autour de l'Atlantique ou autour du monde. Et puis il y a aussi les bénévoles de l'association qui vont partir en mission par avion et qui vont loger sur les bateaux de ces navigateurs.
Thiago ?
Combien de temps mettez-vous pour aller jusqu'au Sénégal ?
Alors en bateau, ça dépend d'où tu pars évidemment. Donc il faut bien, à mon avis, bonne quinzaine de jours pour descendre directement au Sénégal. Mais la plupart du temps, en fait, nos navigateurs font un stop aux Canaries. Et des Canaries, on met à peu près 4 jours à 5 jours pour descendre au Sénégal.
Cali.
Est-ce que vous faites des escales ?
Eh bien oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, ça dépend d'où tu pars. Donc, ceux qui partent de l'Atlantique, généralement, même ceux qui partent de Méditerranée, s'arrêtent aux Canaries. Moi, personnellement, quand je suis partie avec ma famille, je me suis arrêtée au Maroc.
Zineb, ta question ?
Avez-vous déjà eu de la casse sur votre bateau ?
Oui, mais je n'étais pas sur le bateau à ce moment-là. Mais c'est vrai que, bon, évidemment, en voilier, hein, on a toujours des petits problèmes récurrents. Ça peut être de simples petits problèmes au niveau des bouts. Mais mon mari, c'est vrai qu'il avait eu une grosse casse quand il est rentré de New York. Il a eu un problème au niveau du pilote automatique et donc il a dû barrer pour revenir 24 heures sur 24.
Et enfin, Léa, pour clore cette première partie d'interview de Nathalie Régis.
Est-ce que vous avez déjà vu des animaux marins pendant la traversée ?
Oh oui, avec plaisir, on a vu plein d'animaux marins. On a vu des dauphins, on a vu plein de poissons volants hein, qui atterrissaient systématiquement sur le trampoline du bateau. On a vu plein d'oiseaux, vraiment c'était magnifique. Hein. On a vu aussi, on a aussi pêché un petit peu parce que bon, quand on est en navigation, on pêche. Donc on a pêché du thon, des bonites, des barracudas, enfin plein de choses différentes.
Alors on va faire une petite pause musicale sénégalaise. Nathalie, donc la Élise et sa classe vous a laissé le choix musical. Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Alors je vous propose d'écouter Empaté et Sae Blues. C'est un extrait de leur album Racine.
Thank you.
On va maintenant écouter une poésie par Lina, Caïs, Inès, Titouan, Alana et Ego.
Il où l'on ne prendra jamais terre.
Île où l'on ne descendra jamais.
Île couverte de végétation.
Île tapis comme des jaguars.
Île muette.
Îles immobiles.
Île inoubliable et son îles inoubliables et son nom.
Je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous, les cendrars.
Merci les enfants, on va désormais écouter la deuxième partie de l'interview que vous avez faite d'Armel Tripon.
Alors Eline me demande si j'ai eu beaucoup de tempêtes. Eh bien, pas tant que ça finalement. J'étais assez épargné dans l'océan Indien, un peu dans le Pacifique, c'est vrai, il y a eu quelques coups de vent. Et surtout le gros coup de vent, il a été pendant mon retour juste à l'entrée du golfe de Gascogne, le long de l'Espagne, où là j'ai dû lui laisser passer la plus grosse tempête de la course. La mer était énorme, avec des vagues de 12 mètres, et voilà, j'ai dû attendre 24 heures que la mer se calme pour pouvoir passer. Donc j'ai pas vu de vagues géantes, Hugo, mais par contre, voilà, j'ai vu des grosses vagues de 7-8 mètres, ce qui est déjà assez conséquent, mais c'est encore praticable. Est-ce que vous avez eu peur des tempêtes et d'être emporté par les vagues, me demande Zinem? Eh bien, non. Cette tempête qui était vraiment costaud, je l'ai laissé passer justement pour pas prendre de risques parce que c'était la fin de la course, le bateau était fatigué et puis il y avait plus d'enjeux de place. Donc voilà, c'était plus sage d'attendre que cette tempête passe. Est-ce que vous étiez content quand vous avez passé le Cap Horn? Me demande Cali. Eh bien oui, extrêmement heureux. C'est un moment de délivrance parce qu'on quitte le sud, le grand sud, on quitte le froid, on quitte les mers dures, le vent fort, et symboliquement, on remonte vers le nord, donc voilà, c'est du gain vers la route, vers la maison, donc ça marque un tournant symbolique et physique assez important dans cette course. Est-ce que je me suis senti un peu seul à des moments? Eh bien, pas tant que ça, déjà parce que il y avait beaucoup de liens avec la terre, avec mon équipe, qui m'a beaucoup soutenu aussi. Et puis aussi avec ma famille et puis mes proches, donc et voilà, et puis moi j'aime bien être seul en mer pour manœuvrer, pour faire du bateau, donc j'ai pas du tout eu de problème avec ça. Ma famille me manquait, eh bien on arrivait à échanger quand même assez régulièrement, une fois par semaine avec mes enfants, et du coup c'est vrai que c'était voilà, c'était plutôt un bon moment et je dois dire que sur la fin il me manquait un peu, mais globalement pendant cette course j'ai réussi plutôt à bien gérer ça. Est-ce que vous avez eu peur de perdre la course? Alors, me demande Hugo, en fait non, parce que je m'étais pas dit que j'allais la gagner, voilà. Par contre, j'ai eu peur de pas finir la course. Pour moi, ça aurait été vraiment compliqué et un échec de pas réussir à faire tout le tour. Avez-vous pu voir le feu d'artifice? Eh ben non, j'ai pas vu le feu d'artifice, Zineb, j'étais encore beaucoup trop loin, il me restait encore 2 jours de mer quand les premiers sont arrivés. Vous n'avez pas été trop triste quand vous avez appris le classement? Alors, le classement final, je m'y attendais, puisque on a les positions de tous les bateaux. Donc, comme à terre, je suivais en temps réel la course, donc non, j'ai pas été du tout triste. Quelle est votre prochaine course? Ma prochaine course sera la Transat Jacques Vabre, qui est une course qui va partir du Havre pour aller en Martinique, aux Antilles, et c'est une course en double, donc qui part début novembre. C'est une toute petite course, assez rapide. Voilà. Avez-vous fait des courses dans d'autres pays? Eh bien oui, j'ai fait pas mal de courses qui arrivaient soit aux Antilles, soit aux États-Unis, soit au Brésil. Voilà, après j'ai navigué aussi un peu en Asie, un peu en Grèce, essentiellement. J'ai fait en tout une vingtaine de courses, donc des transatlantiques, voilà, donc qui traversent l'Atlantique. Et après des courses, je peux plus les compter parce qu'il y en a eu plein. Mais voilà. Est-ce que vous avez eu le mal de mer pour la première fois que vous êtes monté sur un bateau? Alors j'ai pas eu le mal de mer la première fois, mais par contre j'ai déjà eu le mal de mer souvent qu'on arrête de naviguer pendant un moment, les premières navigations des fois sont assez difficiles. On n'est pas encore amariné. Et puis pour des départs de course, des fois il y a tellement d'enjeux aussi, de stress, que le mal de mer peut arriver assez facilement. Aviez-vous déjà fait une émission de radio, Cali? Alors c'est ma première comme ça, hein. Mais oui, j'en ai déjà fait quand même pas mal. Portrait chinois par Wadia, Camille et Alana. Alors, si tu étais un animal, tu serais un albatros, forcément. Si tu étais une plante, tu serais un chêne. Si tu étais une saison, tu serais le printemps. Si tu étais un pays, tu serais une île. Si tu étais une pièce de la maison, tu serais la chambre. Si tu étais un objet du quotidien, tu serais un vélo. Si tu étais un mot, tu serais liberté. Si tu étais un dessin animé, tu serais... Alors là, c'est une colle. C'est vieux, ça, les dessins animés de... Qu'est-ce que je regardais, moi? Tom Sawyer. Si tu étais un aliment, tu serais un fruit. Et si tu étais une boisson, tu serais du thé. Voilà, bah merci à tous pour ces échanges et bravo encore pour votre superbe chanson que j'écouterai très très vite. À très bientôt.
C'était Armelle Tripon qui répondait aux questions des CP des Buzardières. Nous nous retrouvons à nouveau en classe avec Nathalie Régis de Voile sans frontières, aux nouveaux journalistes qui ont pris place. On est avec Juliana, Hélène, Camille R, Eva, Casey et Ibrahim. Et donc on va parler du Sénégal avec, pour commencer, Juliana.
Est-ce qu'il fait plus chaud au Sénégal que chez nous?
Sénégal. Alors, en fait, le Sénégal connaît deux saisons. La saison des pluies, qu'on appelle l'hivernage, et la saison sèche. Donc, la saison des pluies, elle a lieu de juin à septembre, à peu près. Et le reste du temps, c'est la saison sèche. C'est pour ça que, généralement, nos voiliers partent au Sénégal en mission à partir du mois de... octobre, fin octobre, début novembre. Parce que c'est vrai que quand il pleut là-bas, les pluies sont assez violentes, assez torrentielles. Il peut même y avoir des tempêtes. Donc on préfère aller séjourner au Sénégal pendant cette période-là. Ça nous permet aussi de suivre davantage nos missions et notamment tous nos chantiers de construction.
Hélène ?
Est-ce que le Sénégal, c'est beau ?
Oui, le Sénégal, c'est vraiment un très très beau pays, assez varié sur le plan du paysage. Donc en fait, moi je vais vous parler des îles que je connais le mieux, les îles du delta du Sinésaloum. Ce sont des îles qui sont assez éloignées de Dakar, à 150 km à peu près de Dakar. Donc c'est un paysage en fait de bolons. Donc les bolons sont des petites rivières. Et un paysage de mangroves avec de la savane, des cocotiers, plein de choses belles à regarder, des oiseaux, voilà. Ouais, c'est très beau le Sénégal.
Camille R.
Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez au Sénégal?
Alors, tout dépend comment on arrive au Sénégal. Donc, quand on arrive au Sénégal à Dakar en bateau, il faut qu'on passe toute à la douane, l'immigration, qu'on ait les autorisations en fait pour naviguer au niveau du pays. Après, quand on arrive en avion, parce que je vous disais tout à l'heure qu'on a des bénévoles qui partent en avion pour ensuite rejoindre les bateaux. Donc là, c'est pareil, on arrive à l'aéroport, on passe tout ce qu'il faut au niveau immigration, douane. Ensuite, on prend un taxi 8 places, un taxi 8 places, pour aller jusqu'à Djifer. Alors Djifer, c'est la dernière île du continent avant d'arriver en fait dans le delta du Sinésaloum. Et à Djifer, nous prenons des pirogues pour aller rejoindre toutes ces îles du delta du Séné Saloum. Ces îles du delta sont des îles enclavées. Elles ne sont accessibles qu'en bateau. C'est pour ça qu'on a appelé cette association aussi Voile sans frontières. Hein. C'est-à-dire que c'est une association qui allie le monde marin à la solidarité. Le monde marin parce que on ne peut aller dans le delta du Séné Saloum que par voie d'eau. Alors voilà. Donc en général, on prend la pirogue et puis ensuite on arrive dans les îles, dans les villages.
Eva ?
Combien de personnes soignez-vous ?
Bon, alors là, ça c'est une question qui est très très difficile. Alors c'est vrai qu'au départ, l'association envoyait des missions avec des médecins, des dentistes, des sages-femmes, enfin plein de professionnels de santé. Et ce sont ces professionnels de santé qui soignaient la population lors des missions, donc c'était des missions assez ponctuelles. L'association a beaucoup évolué depuis et les médecins, les dentistes français ne soignent plus. En fait, on intervient en aidant les structures de santé. Par exemple, on a construit un cabinet dentaire ou alors on construit aussi des postes de santé. On aide à la formation, mais on ne soigne plus. Alors auparavant, quand on soignait, on partait à 10 praticiens dans diverses disciplines et on soignait en fait la population d'un village. Donc il y avait beaucoup de monde généralement, c'était plus d'une centaine de personnes à mon avis. Et maintenant donc c'est un petit peu différent. Alors les missions en dentisterie, je peux vous parler de ça parce que c'est mon métier. Donc on intervient en dentisterie en soutien au dentiste qui a été nommé par le gouvernement sénégalais, qui s'appelle Pierre, en l'aidant au niveau de la maintenance du cabinet dentaire, au niveau des fournitures dentaires qu'on finance. Et puis on l'aide aussi quand on va en mission dans les écoles pour faire des dépistages dentaires dans les écoles. Donc là, en fait, généralement, on visite, on ausculte plus de 100 enfants à peu près par école. Ça peut, sur une mission, je pense que c'est à peu près plus de 600 personnes qu'on diagnostique.
Casey, toujours rapport aux soins ?
Où est-ce que vous les soignez ?
Alors, on les soigne dans les différentes structures sanitaires au Sénégal. Donc, il faut savoir qu'au Sénégal, tout dépend du nombre d'habitants dans le village. Donc, quand c'est un petit village, on soigne dans la case de santé. Quand c'est un village un peu plus important, on soigne dans le poste de santé. Et ensuite, on peut soigner aussi au centre de santé, qui est comme un petit hôpital, en fait. Les soins dentaires se passent au niveau du cabinet dentaire aussi. Voilà.
Ibrahim.
Est-ce que vous savez en avance combien de personnes vous allez soigner ?
Non, on ne connaît jamais le nombre de personnes que nous allons soigner. En fait, quand on arrive, généralement, c'est l'imam de la mosquée qui annonce notre arrivée et qui offre à la population la possibilité de consulter là au niveau dentaire, au poste de santé ou au centre de santé. Mais je veux bien redire la chose, en fait, les questions sont bonnes, mais c'est vrai que l'association a beaucoup évolué sur ce plan-là et on préfère faire à nos amis sénégalais plutôt que de faire à leur place. Voilà.
Juliana ?
Comment s'appellent les enfants que vous avez soignés ?
Ah, alors les prénoms sénégalais. Donc, vous avez des Bintou, des Ibrahim, Fatou, mais bon, pour venir sur un sujet un petit peu plus sérieux, la population sénégalaise que l'on soigne, ce sont des Sérères, des Niominka, c'est-à-dire des habitants des îles.
Éline.
Est-ce que les gens vous remercient quand vous partez ?
Ben oui, bien sûr, parce que en fait, c'est vrai que c'est pas une obligation de remercier, hein, parce que bon, quand vous allez chez le médecin, c'est pour vous remerciez bien entendu, mais c'est pas forcément ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est vraiment d'améliorer sur les différents axes qu'on a au niveau de l'association, hein, d'améliorer l'accès à l'école, l'accès aux soins, à la santé. Donc c'est ça en fait, de voir que les gens se déplacent dans les structures de soins, de voir que les structures de soins s'améliorent grâce à notre intervention, hein. Mais toujours en fait avec en collaboration avec les autorités locales. Donc c'est ça, de voir que ça avance, c'est ça le plus grand des remerciements en fait.
Et aujourd'hui, Nathalie Régis, quels sont les projets de Voiles sans frontières ?
Alors nous avons, en fait, nous travaillons sur deux axes. L'axe éducatif, donc au sens large, c'est-à-dire qu'on intervient par exemple pour améliorer les structures d'accueil des élèves. Donc on peut rénover des classes, on peut construire des classes. On fournit aussi des fournitures scolaires, des manuels scolaires. On forme aussi, hein, c'est-à-dire que par exemple, en décembre 2020, nous avons financé la formation des monitrices des centres d'éveil communautaire. C'est l'équivalent des maternelles. Actuellement, on a une laborantine qui est en cours de formation à Dakar et qui sera en fait... La laborantine du centre de santé de Niodior. C'est l'éducation aussi à la santé avec des programmes de prévention, des causeries. Sur le plan éducatif, c'est vraiment très 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 large. Ensuite, nous avons l'axe de développement. Et surtout de développement d'activités génératrices de revenus. Donc en fait, on aide des groupements d'intérêts économiques dans différents domaines. C'est le maraîchage surtout. Ensuite, on a le maraîchage, l'apiculture, pour aider en fait la population à avoir une autre source de revenus que la pêche. Hein, parce qu'en fait, les habitants du delta du Sinassaloum, qui sont des Nyominka, sont à l'origine des pêcheurs. Mais avec la diminution de la ressource halieutique, en fait, que ce soit la pêche, les coquillages, ils se tournent maintenant vers d'autres activités, comme le maraîchage, par exemple.
Très bien. Et Camille R, pour clore cette interview de Nathalie Régis.
Est-ce que vous étiez contente de venir faire une émission radio avec nous ?
Bah oui, j'étais contente, un petit peu impressionnée quand même. Surtout que je n'avais pas trop préparé, je n'ai pas eu trop le temps. Mais ouais, j'étais super contente de venir avec vous. Merci beaucoup.
Merci à vous. On va maintenant écouter une surprise. Je ne sais pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est. Donc de la part de Robin, Wadia et Élise, leur institutrice.
Nous voulons remercier Salima et Julien d'Alternante FM de nous avoir permis d'enregistrer ces 4 émissions radio. C'était une très belle expérience. Merci également à tous nos invités. Nous avons découvert beaucoup de choses.
Je me joins à mes élèves pour remercier Salima et Julien d'Alternante FM. C'était un plaisir de travailler avec eux. Le projet a été très enrichissant pour mes élèves ainsi que pour moi. Je tenais aussi à remercier nos différents invités de nous avoir fait découvrir la navigation sous différents angles. Le côté loisir pour Véronique et Nathalie, l'aspect culturel avec le groupe de chant marin Rêve de mer, le côté sportif avec Armel Tripon et enfin Nathalie Régis pour la facette solidarité de la voix.
Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup, Julien.
Merci à vous.
C'était un très grand plaisir. Aussi pour nous, vraiment, on s'est régalé, on a beaucoup appris aussi. Donc c'était une dernière émission des Buses prennent le large, donc présentée par les CP des Busardières à Saint-Herblain. Une émission, un atelier qui touche à sa fin. Tenez à dire un grand bravo à Élise et sa classe et effectivement également un grand merci aux différents invités. Merci à Julien qui a assuré la technique. Merci à la mairie de Saint-Herblain de nous avoir confié cette chouette mission dans le cadre du parcours culturel et artistique de la ville. Et vous pourrez réécouter et encore réécouter l'ensemble des ateliers émissions des Busardières prennent le large via la page du podcast. Je sais plus parler, ça y est. C'est la fin de l'année pour moi aussi. Via la page du podcast qui leur est consacrée, donc sur le site d'Alternante FM. Une bonne journée à tous. Bye bye.